Alors, je vais prendre avec vous dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 6. Alors, je vais prendre le verset 35 à 46. C'est tout un enseignement que Jésus donne au sujet du pain de vie, ce qu'il est, lui qui a été envoyé du ciel pour être la manne, le pain vivant qui nous nourrit. Mais voilà, je vais prendre donc cet extrait. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ?» Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseigné de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. » Voilà, j'arrête là la lecture avec ce verset qui se détache rien que par la graphie, enfin la manière dont c'est présenté dans nos Bibles, ils seront tous enseignés de Dieu. Et cela a trait à la manière dont Dieu veut se faire connaître à nous par Jésus-Christ, nous révéler son Fils. Nous sommes dans un passage par lequel Jésus explicite la volonté et l'action de Dieu, le Père. Il présente son plan parfait réalisé au moyen de son Fils Jésus-Christ. Le Fils envoyé par le Père pour que nous venions à lui. Le Fils qui ne perd rien de ce que le Père lui donne. Le Fils qui ressuscite les morts. Le Fils qui doit être vu et cru. Voilà, Jésus se présente à travers ce passage comme celui que Dieu, le Père, a donné au monde pour que nous soyons enseignés, pour que nous soyons éclairés, pour que nous soyons instruits, pour que nous soyons sauvés. Il confirme Jésus donc dans Jean au chapitre 17, qu'il a reçu le pouvoir pour faire connaître le nom de Dieu aux hommes, et ainsi donc la vie éternelle. Jean 17, versets 2 et 3, même début du milieu du verset 1. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le Seigneur Dieu, Père éternel, a donné tout pouvoir au Fils. Il lui a donné le pouvoir sur toute chair, pour que tous puissent être enseignés de Dieu, pour que tous puissent être éclairés, pour que tous puissent être ramenés dans l'amour et dans la justice du Père. Il a fait connaître le nom de Dieu. sans la connaissance du nom de Dieu, tout n'est que méchanceté, tout n'est que perdition pour l'être humain. Il se perd vraiment loin de Dieu, il se perd loin de la connaissance de Dieu. Un simple passage dans Osée, le prophète, donc chapitre 4, versets 1 et 2, nous donne la description de celui, de ceux qui ne connaissent pas le nom de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Quand le nom de Dieu n'est plus connu, c'est ce qui se produit. Je ne peux pas m'empêcher ici de dire comment même la loi française aujourd'hui permet le meurtre d'enfants à naître alors qu'ils pourraient parfaitement vivre si l'on prenait soin d'eux. Mais une génération qui ne connaît plus le nom de Dieu se permet de faire assassiner les enfants dans le ventre de leur mère. C'est l'effet de la non-connaissance de Dieu. Meurtre sur meurtre. Et de bien d'autres façons, également vol, adultère, violence, etc. Le tableau est le même en tout temps. Dans Tite, que passage que vous connaissez également, bien sûr, au chapitre 3, le verset 3, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » C'est le tableau de l'être humain dans sa nature de pécheur, sa nature. Qu'est-ce qui fait ce péché ? C'est l'absence de Dieu, c'est l'absence de la connaissance de Dieu et c'est la transgression de sa loi lorsqu'elle a été révélée. L'être humain n'est pas bon par nature, il est totalement corrompu. Les quelques manifestations de bonté qui existent dans la société sont des subsistances de la révélation de Dieu. Ce sont des grâces qu'il accorde pour que l'espérance puisse encore travailler le cœur de ceux qu'il veut sauver. Il a encore des cœurs qui lui appartiennent dans ce monde, par lesquels il peut révéler sa justice et donner de l'espérance. Sinon, ce ne serait que désespoir et ténèbres pour tout être humain. Et la génération aurait déjà disparu. Mais malgré les bons exemples, eh bien, le mauvais cœur peut très vite se révéler à nouveau. Il y a cet exemple dans Jérémie au chapitre 22, où voilà, il est question d'un père et d'un fils. Jérémie 22, les versets 13 à 17. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses » et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre et la peint en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre ? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas ? Mais il pratiquait la justice et l'équité. Et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel ? Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent, pour exercer l'oppression et la violence. » Entre le père et le fils, immédiatement, changement total. Le père pratiquait la justice, il prenait soin du pauvre, de l'indigent, et le fils est en train de se livrer à l'oppression et à la violence et à se faire une situation et se bâtir une belle maison, etc., etc. Très vite, les mauvaises dispositions du cœur de l'homme peuvent se manifester, même lorsqu'il a de bons exemples devant lui. Mais après, bien sûr, le constat et la réprimande qui intervient par les prophètes, il faut déjà que certains constatent et disent les choses, et annonce bien sûr le jugement de Dieu, le châtiment sur les comportements coupables. Mais ensuite intervient la grande révélation de la grâce de Dieu, la grande révélation de Dieu. Chapitre 31 de Jérémie, au verset donc 31 à 34, ce merveilleux passage. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. « Car je pardonnerai leur iniquité » et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La grâce de Dieu est intervenue, le pardon, l'effacement des péchés, et la loi de Dieu qui vient s'inscrire dans le cœur par sa connaissance. Plus personne ne dira à son frère « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Ils seront tous enseignés de Dieu, dit Jésus. » Tous me connaîtront. C'est cela que Dieu veut, bien sûr, pour nous, aujourd'hui encore, nous révéler sa grâce parfaite, comme la suite du passage de Tite, que je vous ai lu, l'affirme. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Oui, la bonté de Dieu a été manifestée, sa miséricorde, sa grâce toute-puissante, l'effacement de nos péchés par l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, nous sommes encore dans ce temps, de la grâce, ce temps où nous pouvons nous glorifier de connaître l'Éternel au milieu d'une génération qui va vers son jugement. C'est toujours Jérémie que je vais prendre en référence au chapitre 9, les versets 23 à 26. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Peut-être êtes-vous parmi les sages, parmi les forts, parmi les riches. Ne vous glorifiez pas de votre sagesse, de votre force, de votre richesse. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ce qui est du cœur de Dieu, c'est la bonté, le droit, la justice. Et c'est de cela dont nous pouvons nous glorifier lorsque nous avons appris à connaître Dieu, lorsque nous avons appris sa bonté, lorsque nous avons appris comment il nous a aimés en Jésus-Christ, comment il a fait justice pour toutes les offenses par le sacrifice de la croix. Comment nous pouvons vivre maintenant dans la droiture, sous son regard, sanctifié par lui. Oui, nous pouvons nous glorifier de connaître le Seigneur au milieu d'une génération qui l'a abandonné et qui continue à le faire. Les versets 25 et 26, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur, l'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, particularité qui est liée à la loi et aux coutumes de ces peuples, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. » Donc même ceux qui sont instruits de la loi de Dieu, de la connaissance de Dieu, même des personnes religieuses, peuvent être parmi les incirconcis de cœur qui sont face au jugement qui vient. Les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. J'espère que pour vous, vous êtes parmi ceux, justement, dont le cœur est circoncis par l'obéissance à Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus est venu, il a obéi lui-même et il nous fait entrer dans l'obéissance de la foi. Il circoncit nos cœurs pour que nous puissions connaître Dieu et être sauvés. Et donc, cela nous ramène toujours à Christ. C'est de lui que nous sommes tous enseignés. Le Père a toujours poursuivi le même dessein de révéler sa bonté et sa justice par la venue de son Fils unique, Jésus-Christ. Rappelons-nous que l'ancienne alliance n'était qu'une préparation, que Jésus-Christ était en germe dans toutes les promesses, toute la loi, tout ce que Dieu faisait pour Israël, c'était l'annonce de son œuvre de grâce et de justice en Jésus-Christ. J'ai l'habitude de dire que l'Ancien Testament, c'était comme la fleur, et le Nouveau Testament, c'est le fruit qui s'en est suivi. Et le Seigneur Dieu donc nous donne de goûter à ce fruit de sa bonté et de sa fidélité donc par l'œuvre, par l'épanouissement de son œuvre qu'il avait commencée dans l'Ancien Testament et qui maintenant nous révèle le Fils. L'apôtre Jacques nous présente aussi le Dieu de toute grâce, celui de qui descendent toute bonté, toute grâce, dans chapitre 1 de Jacques, versets 16 et 17. Jésus disait qu'il était le pain descendu du ciel et les pharisiens ne comprenaient pas cela. Eh bien, Jacques répète d'une certaine manière, chapitre 1, versets 16 et 17, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » En faisant descendre son Fils bien-aimé et en faisant descendre maintenant par le Saint-Esprit toute sa connaissance, sa bonté dans nos cœurs, eh bien, le Seigneur poursuit son œuvre d'engendrement et de préparation à la nouvelle création. Nous sommes les prémices de la nouvelle création de Dieu. Le Père a toujours poursuivi le même dessein de révéler sa bonté et sa justice par son Fils unique, Jésus-Christ. Et vous faites bien, alors vous ferez bien, de prêter attention à ce moment, à la suite du texte. Car l'apôtre tire argument du don de la parole de vérité, la parole qui engendre par la volonté du Père, pour nous demander que nous soyons de ceux qui, avant toute chose, écoutent et qui abandonnent la colère. Il poursuit ainsi, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Il en tire une application pratique directe concernant notre façon de réagir, voilà, notre façon d'être. Qu'en conclure, si ce n'est que, en parlant trop vite, nous exprimons nos pensées humaines, pensées erronées, mais pensées aussi contradictoires, et nous ne sommes pas instruits, nous ne nous laissons pas instruire, édifier et sauver par la parole de Dieu. Et il s'agit, je pense, ici vraiment de recevoir d'abord l'enseignement divin concernant la doctrine de la foi pour être rapproché de Christ, édifié en lui, qui est doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je suis doux et humble de cœur, et là vous trouverez le repos, dit le Seigneur. Donc laissons donc Dieu nous enseigner dans la douceur au sujet de son Fils bien-aimé qu'il a envoyé dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est d'ailleurs ainsi aussi que s'exprime Paul à Tite au début de ce chapitre 3 dont je vous ai lu les versets 3 et 4 et la suite. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, etc. La douceur, la bonté, la grâce de notre Seigneur nous porte à intégrer dans notre façon de vivre et dans nos relations la douceur de Jésus-Christ. Ne pas parler trop vite devant Dieu implique de ne pas parler trop vite devant notre prochain. Écouter l'autre plutôt que de vouloir le convaincre de but en blanc d'une pensée ou d'une opinion que nous avons, que vous avez, bien cela vous évitera bien des déboires et cela vous permettra de vivre vraiment les relations telles que Dieu les a créées nouvelles en Jésus-Christ. Nous avons expérimenté ces derniers mois la grande difficulté de se comprendre dans la foi lorsqu'une situation critique se présente. Je parlais de la pandémie. Combien il est facile de s'exprimer rapidement, de se mettre en colère, de se disputer même concernant des opinions différentes que nous pouvons avoir au sujet de ce qui se dit ou ce qui peut ou doit se faire. Alors, soyons prudents pour être enseignés de Dieu. Tous enseignés de Dieu, ils seront tous enseignés de Dieu dans la douceur d'un partage sincère et mutuel de la vérité que Dieu nous communique. Et parfois, et si nous sommes ensemble, c'est bien pour nous communiquer au sujet de la vérité. Il ne s'agit pas de ne pas avoir d'idées ou d'opinions, mais de nous édifier dans un échange sincère au sujet de ce que nous comprenons, des temps que nous vivons. Si vous avez Christ, cherchez-le personnellement, communautairement, pour réagir selon Christ. Il vous dira, lui, la vérité de votre vie personnelle, la vérité de ce temps que nous vivons. Il vous montrera les œuvres pour aujourd'hui, dans l'attente de la gloire qui vient. Et tout cela ne peut se faire que dans sa douceur, dans la réception de sa parole, des dons et de la grâce qui descendent d'en haut et que nous ne pouvons recevoir qu'en nous approchant de Jésus-Christ, en venant à lui, en mettant toute notre confiance en lui et en son enseignement. Abstenons-nous de prise de position qui sont de notre cœur à nous, ou qui sont même du cœur des hommes méchants, mais même de notre propre cœur. Méfions-nous de nos propres réactions, de nos paroles rapides, et faisons en sorte que nous passions ce temps avec la présence sanctifiante du Seigneur qui est là à l'œuvre, qui veut toujours révéler la grâce de Dieu pour nous préparer à la vie éternelle. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est notre instructeur et vraiment mettons-nous à son écoute. Il nous révélera ce qui le concerne et comment nous placer et nous vivre et vivre en lui pour faire face à la situation présente et à celle qui en découlera, toutes les évolutions qui se présenteront, lorsque le Seigneur nous trouve enseignés de lui dans ce temps-ci. Amen.